Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news. Hello.
Il est 9h40 et c'est le dernier instant M de la semaine sur France Inter.
Vous voulez couper ?
Non, je vous
vois. Vous êtes en direct, allez-y.
Dimanche soir, sur Arte, un documentaire consacré à Sergio Leone, maître du western italien, a attiré notre attention. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on y voit et on y entend ce type à l'incroyable figure léonine se raconter un peu. On aurait aimé que ce soit beaucoup plus long, tant ces petites archives révèlent un franc-parler d'une acuité, d'une profondeur, d'une drôlerie, mais aussi parfois d'une agressivité qui laisse sans voix. À sa façon, cet Européen est parti lui aussi à la conquête de l'Ouest américain, d'un Hollywood à bout de souffle lorsqu'il s'agissait de raconter les pionniers d'une nation. En dynamitant le western, Sergio Leone a aussi dynamité la représentation que l'Amérique se faisait d'elle-même.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Noël Sismolo, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors je vous présente, cher ami Simsolo, pardon.
C'est pas grave, ça arrive souvent.
C'est vrai, ça vous arrive souvent.
Oui, c'est
tout. Alors donc, je vous présente. Vous êtes vous-même acteur, réalisateur, vous êtes romancier, vous êtes fin connaisseur de l'histoire du cinéma, vous êtes surtout ce matin l'ami de Sergio Leone. Vous avez publié Conversation avec Leone au Cahier du cinéma, qui est aujourd'hui traduit en Italie, qui est le seul bouquin d'entretien avec Sergio Leone. Il y a, sachez-le, vous tous, une expo à la Cinémathèque de Paris en ce moment dans le 12e arrondissement qui est consacré au cinéaste. Et puis une petite info, au printemps paraîtra chez Glénat une bande dessinée dont vous êtes le scénariste, une bande dessinée sur le maître du western italien qui lui-même s'est beaucoup nourri de l'univers de la bande dessinée. Alors Noël Simsolo, vous avez participé à ce documentaire diffusé dimanche soir, Sergio Leone, une Amérique de légende, à 22h45 sur Arte. Il est signé d'un des meilleurs spécialistes du western italien, Jean-François Giré. Jean-François Giré habite un peu loin pour être en studio avec nous ce matin, mais bien entendu, on le salue. Alors, un petit jeu du vendredi avant la midonnée, ça va Bruno ?
Bonjour Sonia, très bien.
La Madeleine. Ce matin, figurez-vous que je vous offre Léo Ferré, son récital à Antibes de 1961, réédité en 33 tours avec Lina, qui propose même un code pour télécharger, on va dire, des enregistrements inédits de Ferré. Voilà. Mon adresse mail, c'est l'instantm@radiofrance.com. Ma question est la suivante. Seriez-vous capable de reconnaître cette émission de cuisine diffusée à la télévision française ?
Mais Raymond Oliver, c'est gentil de m'avoir donné ça aujourd'hui. Il est vrai que Noël approche. Tous nos spectateurs doivent être dans les préparatifs de Noël. Cette bûche est splendide. Alors, vous allez nous la faire sous les yeux ?
Sous les yeux.
C'est assez rapide ?
Mais oui.
Oh là là, pourtant, c'est si beau. Quels sont les ingrédients qu'il faut alors pour faire cette bûche ?
C'est la génoise et la crème au beurre.
Voilà, on était en 1954. Quel était le titre de cette émission culte de la télévision française ? Un seul mail, l'instant M tout attaché, @radiofrance.com. Bruno Donnet, toute cette semaine, vous avez regardé comment les journalistes télé ont réagi aux annonces d'Emmanuel Macron. Et vous nous dites ce matin qu'en voulant se moquer de la ministre du Travail, plusieurs commentateurs ont finalement fait le jeu du gouvernement sur la question de l'augmentation du SMIC.
Oui, vous le savez Sonia, le commentaire politique est un art subtil qui réclame de tourner au moins cette fois sa langue dans sa bouche sous peine de se voir immédiatement transformé en arroseur. Arrosé. J'ai donc été très surpris de constater que, dès mardi matin, nombre de journalistes politiques s'étaient précipités pour ridiculiser Muriel Pénicaud, prétendument coupable d'avoir avalé son chapeau sur la revalorisation du SMIC. J'ai entendu de nombreux commentaires qui allaient dans ce sens, et l'un d'entre eux, je l'ai capté dans le 13h de TF1 où l'éditorialiste politique de la chaîne s'est allègrement payé la ministre en expliquant ceci à Jean-Pierre Pernaut.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, elle a découvert, elle, quelques minutes avant l'intervention du président, par un coup de fil du chef de l'État, que finalement le SMIC allait bien bénéficier d'une manière ou d'une autre d'une revalorisation de 8%, alors qu'elle avait affirmé le contraire la veille.
Voilà naze. Voilà. Alors c'est vrai, la veille, interrogée par Arlette Chabot sur LCI, Muriel Pénicaud avait déclaré qu'une éventuelle augmentation du SMIC n'était absolument pas à l'ordre du jour, et elle avait même expliqué pourquoi.
Le SMIC, on sait que ça détruit
d'accord.
Des emplois.
Donc, mais non, c'est pas la bonne méthode.
C'était donc assez tentant, en effet, de vouloir railler une ministre contrainte aujourd'hui d'assurer le service après-vente d'une mesure à laquelle elle était farouchement opposée. hier. C'était tentant, mais fallait-il pour autant céder à cette facilité? Eh ben ça, c'est pas sûr. Car qu'est-ce qu'a dit précisément Muriel Pénicaud sur LCI? Elle a dit que si l'on augmentait le SMIC, on augmenterait aussi le coût des salariés et que nombre d'employeurs renonceraient donc à embaucher.
Il y a plein d'artisans, de commerçants, etc. qui vont mettre la clé sous la porte, qui n'y arriveront pas.
Or, qu'est-ce qu'a annoncé toujours précisément Emmanuel Macron lundi soir?
Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019.
Il a dit que le salaire d'un travailleur augmenterait, mais à aucun moment que le SMIC allait augmenter. Le diable étant toujours dans les détails, il n'a donc à aucun moment contredit sa ministre. Seulement voilà, produire un décortiquage fin de la mécanique économique de l'augmentation, expliquer comment le gouvernement allait y parvenir, c'était nettement plus compliqué et beaucoup moins marrant que de se payer Pénicaud. Mais était-ce pour autant inutile? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous propose d'écouter ce qu'a opportunément souligné en pleine Assemblée nationale, non pas un journaliste, mais bien un député, le socialiste Joël Avrignier, élu en Haute-Garonne.
Non, Emmanuel Macron et son gouvernement ne vont pas augmenter le SMIC. Le SMIC sera revalorisé à hauteur de 1,6%, soit le taux d'inflation, et il passera de 1184 euros à 1203 euros.
Il a commencé par tordre le cou aux nombreux raccourcis qu'il avait entendus, puis il a poursuivi son exercice de pédagogie en expliquant que l'augmentation du salaire des smicards était juste un effet de la fameuse prime d'activité.
Vos annonces frauduleuses cachent en fait l'accélération de la hausse de la prime d'activité qui était déjà annoncée pour 2021.
Avant de conclure en précisant qui paierait cette mesure.
La prime d'activité est une prestation sociale, elle est donc financée par l'impôt.
Envoyer, c'est peser. Alors voilà, cette petite analyse froide et austère aurait pu faire un merveilleux éditorial, nettement plus productif que les gloussements que je vous ai fait entendre en préambule. Car oui, Sonia, cette semaine, les moqueries de certains commentateurs ont finalement rendu une fière chandelle à tout un gouvernement qui sait parfaitement bien que le sarcasme, de plus en plus souvent utilisé comme unique instrument du commentaire politique, constitue un merveilleux cheval de Troie, extrêmement performant. Pour nous faire prendre, par exemple, les vessies d'une simple revalorisation de la prime d'activité pour les lanternes d'une véritable augmentation du SMIC. Bonne journée.
Merci beaucoup Bruno Donnet. Salutaire et à réécouter sur franceinter.fr. Nous avons un gagnant pour le jeu, il s'appelle Olivier, qui a reconnu Art et Magie de la Cuisine en 1954, chers amis. Magique. Il remporte donc le 33 tours de Léo Ferré. Et nous tous, ici à l'instant M, nous le félicitons. Toute mon équipe, François Audouin à la réalisation, Anne-Cécile Perrin, Redouane Tella qui prépare nos émissions, ainsi que Guillaume Roux, notre technicien.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Je m'appelle Sergio Leone et je fais la mise en scène des films qui sont toujours très longs et toujours coupés.
Il était votre ami, Noël Simsolo, Sergio Leone, et on entend sa voix justement dans ce documentaire diffusé sur Arte dimanche soir à 22h45. Lorsqu'on demandait à Sergio Leone « qu'est-ce qui t'a amené au western ?», il répondait « la faim ». Ce qui est extrêmement intéressant, la fin F-A-I-M, bien entendu, c'est qu'il y a deux fins dans cette réponse. Celle de l'homme hanté par la pauvreté de son enfance, qui jure que ses enfants à lui n'auront jamais faim, et celle de l'homme qui a faim de cinéma, et que les films qu'on veut lui faire faire ne le nourrissent pas, Noël Simsolo.
Oui, parce que ce que peu de gens savent, enfin, parce que la légende a tellement été importante du western italien, c'est que Sergio n'était pas un fou de western, contrairement à ce que l'on croit. Moi, j'ai toujours souri quand j'ai vu des biographies écrites par des gens qu'il avait juste croisés ou rencontrés, qui parlaient de son amour pour la bande dessinée de western. Mm-hmm. Alors, Kin Carson, tout ça et tout. Alors qu'en fait, il adorait Chino et Franco, Carole et Gaston, qui sont l'histoire de deux garçons en Australie qui sont des scouts. On est très très loin de la vision du cow-boy et des Indiens. Et lui, au départ, simplement, il s'est trouvé obligé. Il a fait un western parce qu'il en avait assez après le Colosse de Rhodes qui avait marché de ne pas pouvoir travailler.
Mais c'est ça, il faut raconter l'histoire de cet homme qui a été le plus jeune assistant réalisateur de Cinecittà, qui a été assistant réalisateur sur Ben-Hur, qui a réalisé le Colosse de Rhodes. Ça a été d'énormes succès populaires et financiers également. On voulait de lui qu'il devienne un réalisateur de péplum. Il ne voulait pas. Il voulait abîmer le péplum. Et de la même manière, finalement, il s'est emparé du western de ce genre d'accord, qu'il a dynamité aussi.
Oui, mais enfin, ce qui s'est passé surtout, c'est que lorsqu'il a fait le Colosse de Rhodes, parce qu'il avait d'abord dépanné son parrain qui était très très malade pour les derniers jours de Pompéi, c'est lui qui l'a réalisé à la place de Bonnard qui était malade en demandant tous les matins qu'est-ce que tu vas faire comme plan et tout, donc il y avait tout un système. Il fait le Colosse de Rhodes où il s'amuse, il fait du Hitchcock, il s'inspire de Nord by Northwest, la mort aux trousses pour l'histoire, disons, mais ce n'est plus, disons, les monts Rushmore, mais c'est le Colosse sur lequel on se bat en hauteur et qu'on tombe dans l'eau. Il s'amuse comme un petit fou. Et il adore même mettre le feu partout. Il disait, tu sais, moi, je suis un petit Néron. J'aime mettre le feu. Bon, c'était ça, Sergio. Bon. Et on lui propose que des Hercules. Oui. Que des Hercules. Et dès que c'est ça, il dit non. Et un beau jour, bon, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Et il fait un western, alors que le western italien n'existe pas à l'époque. Non. Il y a eu un ou deux petits films. Il y a eu que les Allemands qui ont commencé à faire des Winnie et tout. Et il le fait. Personne n'y croit au film. Alors personne. Le film sort dans une salle, vraiment perdu complètement.
Sous pseudonyme. Il n'est même pas signé. Il n'est même pas signé Sergio Leone. Nous sommes en 1964.
Oui, mais personne ne signait. Les western italiens à l'époque étaient toujours signés par des pseudos anglo-américains parce qu'on voulait faire croire au type qui allait au cinéma de Quartier que c'était un film américain.
Bon. Ça s'appelle Pour une poignée de dollars. Ça va révéler Clint Eastwood, qui est très jeune à l'époque. Et il a littéralement révolutionné. Mais quand on parle de révolution, c'est au sens propre du terme.
Mais il a été escroqué par le film. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne voulait faire que ce film-là. Oui. Les producteurs de La Jolie l'ont escroqué. Non seulement ils n'ont pas payé les droits à Kurosawa avec le film s'inspirait du garde du corps, Yojimbo de Kurosawa, ils n'ont pas payé les droits. Et en plus, ils n'ont pas tenu son contrat. Si bien qu'il s'est retrouvé avec ce film qui ne lui appartenait pas, sur lequel il ne touchait pas un sou de royalty, alors qu'il aurait dû en procès avec eux. Et c'est là qu'il a vu un avocat de ses amis qui s'occupait de cinéma, qui est Grimaldi. Il a dit, tu vas devenir producteur avec moi. Et qu'est-ce que tu vas faire comme film? Je vais m'évenger, je vais faire un film qui va s'appeler Pour quelques dollars de plus. Et en fait, c'est ça, la genèse du deuxième film, où il reprend Eastwood et il prend un Eastwood, qui était connu pour la télévision avec Rawhide, il prend un type qu'on avait vu traîner dans tous les films de Fuller et tout, dans les tout petits rôles qu'Elly Van Cleef. Il en fait une star du jour au lendemain. C'est-à-dire que le problème, c'est un faiseur de stars, Sergio.
Alors justement, parlons-en des stars, de la façon dont il va les utiliser, parce qu'à travers les stars, il s'empare aussi des stéréotypes du cinéma américain, et plus que du cinéma américain d'ailleurs, parce que c'est exactement ce que... Voilà, on va sauter directement, mais parce qu'on pioche dans le film de Jean-François Giray. En 1968, il réalise Il était une fois dans l'Ouest, et là, il va choisir 5 stéréotypes du western. Écoutez Sergio Leone expliquer ce qu'il en fait, ce qu'il fait de ses personnages, pourquoi il y a tant de lenteur dans ses films, c'est absolument magnifique.
Ces personnages, ils sont tellement conscients d'arriver pas vivants jusqu'au bout du film, qu'ils prennent tout le temps pour s'étudier et pour se regarder. Et chaque regard, il prend un poids et une force déterminante, c'est la force de la vie, de la survivance. C'est pour ça la lenteur. C'est pas par hasard qu'il s'est mis à la lenteur.
La lenteur dans mes films, c'est la force de la survivance. C'est-à-dire qu'il... Voilà, il bâtit des personnages qui savent qu'ils vont crever dans d'atroces souffrances parce qu'il y a énormément de violence dans les films de Sergio Leone. Et donc, ils prennent le temps. Le temps de la vie, le temps de se voir. Mais je trouve ce moment magnifique.
Son livre préféré était Voyage au bout de la nuit de Céline. C'est pas innocent. Ce sont des gens qui vont tranquillement vers la mort. Si vous avez lu Voyage au bout de la nuit, ça finit par une grande danse de mort. Bon, comme il y a à la fin du Bon, la brute et le truand. Et l'autre chose, c'est que beaucoup de gens se trompent quand ils disent, il a tué le western. Il a pas tué le western. Il a remis le western à ses origines. Lui connaissait tous les films muets de William Haynes, tout ça et tout, qui étaient des films qui étaient beaucoup plus proches de Stroheim, que du western, disons, comme chantant. Il n'aimait pas Tom Mix du tout, lui. Il aimait plutôt le côté froid, le côté les personnages impassibles. Bon. Et donc, il avait compris que il allait voir tous les documents, il savait tout, il avait un côté très documentaire. Et son idée absolument géniale qu'il a eu à un moment, il a voulu à la fois retrouver la bande dessinée de son enfance, cet univers, je parle pas de western, univers, disons, d'images fascinantes, magiques, d'un pays inventé. Et deuxièmement, il a voulu trouver le côté documentaire des choses et le côté lyrique. Et donc il a dit, je vais mélanger l'opéra avec la lenteur de l'opéra, tout ça, avec le néoréalisme. Ouais. Et en fait, il a fait ça, il a réussi à donner un néoréalisme au western, qu'il n'avait presque jamais eu dans le western moderne. Et les gens n'ont pas compris. Un des seuls qui a vraiment bien compris à l'époque ce que faisait Leone, je crois, c'est Serge Danet, le critique, parce qu'il m'avait dit, tu sais, je pense que Sergio, il est pas... J'avais présenté Leone, il m'a dit, il est pas en avance, il est à l'heure. Mais personne ne le sait. Et il avait raison, il était à l'heure. Et d'ailleurs, je dois dire que les seuls critiques de cinéma dits intelligents, qui avaient défendu Leone C'est le début, parce qu'il était insulté.
Il a été insulté. France c'est Inter, le public.
Il a été traité par Monsieur Charançon en direct. Ce type pense qu'au pognon, c'est il est sa gueule. C'est
au
ce qu'il a dit en direct.
C'est formidable.
En direct.
Mais c'est le public. C'est le public qui a bâti la statue de Léon.
Oui,
avant
mais...
les producteurs qui ont toujours voulu couper ses films, avant les critiques. Et qui
l'ont... mais il y a eu quand même. Il faut reconnaître à César ce qui est à César, vu qu'on est en Italie.
Allons-y.
Il y a d'abord, c'est que Sylvie Pierre et Serge Danet ont défendu très tôt dans les cahiers du cinéma avec Le Bon, l'Abruti et le Truand, et Il était une fois dans l'Ouest, Léon, et Michel Simon dans Positif. Donc, il y a des gens qui commençaient à sentir le problème.
Et Michel Simon qu'on entendait aussi sur France Culture.
Et il s'est passé que lorsqu'il y a eu Il était une fois dans l'Ouest, je vais vous raconter juste une brève anecdote.
Dites-moi.
Qui va expliquer. Moi, quand je suis arrivé m'installer à Paris en 68, j'avais découvert Léon. À l'époque, je m'étais fait insulter dans les ciné-clubs lillois parce que je défendais Serge Léon et pas John Ford. J'aimais autant de John Ford, mais vous ne voulez pas comprendre. Bref. Et j'arrive et on ne voyait plus les films de Léon. On les voyait qu'en version française dans les cinémas de quartier qu'il y avait encore à l'époque. Et moi, j'habitais du côté au coin de la rue Montmartre et des grands boulevards. Et j'allais dans tous les cinémas de quartier revoir les films de Léon et je rencontrais toujours Jacques Rivette. Le cinéaste Jacques Rivette. Et on se connaissait un peu.
Oui.
Et il était en train de refaire ses universités léoniennes, si je veux dire.
C'est vrai.
Et qu'il y avait sur Terence Fisher en anglais et ça. Et c'est-à-dire que même les grands cinéastes intellectuels commençaient à comprendre brusquement qu'ils n'avaient pas compris.
Ah, pourtant, que c'est loin le cinéma de Rivette.
Qu'il était un cinéaste auteur. Et un styliste, et non pas...
Alors justement, on parle de style, on parle d'opéra, et pour finir, Noël Simsolo, on va parler évidemment de cette musique, qui est, il le disait lui-même, un dialogue à part entière.
C'est un scénario.
Voilà. Écoutez comment Ennio Morricone, avec son franc-parler qui nous a fait mourir de rire, raconte sa rencontre avec Ennio Morricone, qui lui a été au départ imposé par des producteurs, en 1964.
Alors moi j'ai vu ton film, je te dis franchement, c'est de la merde pure la musique. Fais-moi écouter quelque chose qui peut rassembler. On the wind. J'écoute cette voix qui m'a cassé les couilles dessus et j'ai écouté quelque chose qui m'intéressait au-dessus. Je reste comme un con. J'ai dit, c'est toi qui tu fais les films. Il faut que tu m'écrives seulement une grande souffleur.
Moi, j'en ai la chair de poule.
Il y a deux trouvailles dans cette musique.
Dites-nous.
C'est déjà, il y a le siffleur, mais aussi la guitare électrique. Je ne sais pas si vous imaginez une musique des westerns avec guitare électrique en 63-64, il y avait de quoi tomber par terre.
Et la guimbarde.
Mais la guimbarde, c'était peut-être logique, parce qu'à l'époque, mais une guitare électrique, on était en pleine pop musique, on était en 64. Bon, il y a ça. Mais Léon, c'était quelqu'un qui avait, on l'entend là, qui avait un humour terrible, très méchant.
Et ravageur.
À Cannes, il y avait tout un tas de gens qui tournaient autour, qui présentaient des filles et tout, qui essayaient, qui étaient gentils avec lui et tout. Et un beau jour, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces espèces de rapaces, de cons qui sont là à t'emmerder? Il dit, moi, t'inquiète pas, c'est comme les arbres qui pourrissent les fleurs. Le jour où je veux pousser un peu l'arbre, ils vont tomber comme des pommes pourries. Bon, et sa vie était ça, c'est qu'il savait très bien utiliser des gens. Oui, et après il les jetait, il s'en foutait. Parce que c'était un homme pessimiste et triste.
Oui.
Il m'a dit, je suis romain, je peux être que pessimiste. Et je lui dis un jour, oui, mais les pessimistes, c'est ceux qui croient vraiment à l'avenir. Il dit, bien sûr, c'est con d'optimiste, pour eux, tout est bien.
Mais ce sera le mot de la fin, Noël Simsolo. Et d'ailleurs, sachez que dans le film que vous verrez dimanche soir de Jean-François Giray, il y a une autre explication merveilleuse de Sergio Leone qui dit, finalement, le plus grand auteur de western, c'est Homère. C'est Homère, c'est la tragédie. Et pourquoi? Parce qu'il fabriquait des personnages qui étaient tout dans leur individualisme, comme le western. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir nous rejoindre ce matin. Nous sommes extrêmement heureux. Sachez que lundi, à la Cinémathèque de Paris, dans le 12e arrondissement, vous pourrez revoir à 20h Le Bon, la Brute et le Truand, et que c'est la dernière copie 35 mm qui existe en France de ce chef-d'œuvre. Merci à vous, c'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebeyi.
Il faut lire sa monographie.
Ben oui, on en a parlé en début d'émission.
Extraordinaire. Moi, c'est un de mes livres de chevet. Alors, ce matin, un sujet qui ne vous concerne pas, Sonia de Villers.
Pourquoi?
L'oisiveté. C'est une travailleuse acharnée, je suis désolée.
Oui, mais si on passe, par exemple, le week-end entier à regarder des westerns avec ses enfants.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai.
Ouais, ça s'appelle de l'oisiveté.
Oui, si on veut.
On est un peu en retard. Alors,
voilà, alors, les bienfaits de l'oisiveté ce matin au 01 45 24 7000.